va faire le deuxième cours, Bezrat Hashem, sur la halakhot de Hanouka. La halakhot de Hanouka. Donc, on a expliqué hier où on devait placer les bougies de Hanouka. Maintenant, on va parler de l'heure à laquelle on doit allumer les bougies de Hanouka, de l'heure optimale pour allumer les bougies de Hanouka.
Après la tombée de
D'accord? Alors, on n'a pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka avant que le soleil se couche, avant la Shkia. Merci.
Ah, ça, c'est
qui a mis ce plateau?
Je sais pas, c'était là.
Ça, c'est gentil.
Bismuth, ça.
Oui.
Hein, c'est un plan.
Café.
C'est à vous, c'est un plan à vous, ça. Bon, ça devrait un jacquemin devant. Donc, à partir de quelle heure on a le droit d'allumer les bougies? On n'a pas le droit d'allumer avant la Shkia Tachama, c'est-à-dire avant que le soleil se couche. Le soleil se couche, ça veut dire, il faut compter 18 minutes après l'heure d'allumage des bougies. Avant l'heure d'allumage des bougies, on n'a pas le droit des bougies de Shabbat. On n'a pas, donc, 18 minutes après l'heure des bougies de Shabbat, donc à peu près de 17h aujourd'hui. Avant 17h, interdit d'allumer les bougies de Hanouka. D'accord? Je parle pas du vendredi, je parle en général. Donc, et là, Imsof Shkiata, on va allumer les bougies quand le soleil est en train de finir, le moment optimal. C'est quand le soleil est en train de finir de se coucher. Vous voyez, c'est un moment qui n'est pas vraiment défini, mais dans des minutes. C'est quand le soleil est en train de finir de se coucher. Alors, en général, aujourd'hui, c'est estimé à peu près à 20 minutes avant la tombée de la nuit. À peu près. D'accord? 20 minutes avant la tombée de la nuit. D'accord? Oui.
Oui, parce qu'il faut préciser.
Non, Shabbat, on va parler après.
En semaine, il faut qu'il y ait la nuit noire.
Non, là, pour l'instant, j'ai dit, je ne parle pas encore de vendredi.
Ouais, pas,
d'accord.
Mais alors, il fait encore jour.
Le moment optimal pour allumer les bougies de Hanouka, parce qu'on se calque sur ce qui se faisait au Beth Amikdash. Attention, on peut l'allumer toute la nuit, il n'y a pas de problème. On verra après les détails. Mais le moment optimal pour allumer les bougies de Hanouka, c'est quand on se calque sur l'heure à laquelle on allumait les bougies au Beth Amikdash, qui était vers la fin de la tombée de la nuit. Vous comptez environ 20 minutes avant la... Vous comptez environ... Non. Vers la nuit est en train de tomber. D'accord? Donc vers la fin du coucher du soleil, ça veut dire que il fait encore un tout petit peu jour. D'accord? C'est vraiment juste avant qu'il fasse nuit. C'est pas du tout... Alors regardez. Par exemple, Shabbat est sorti à quelle heure?
C'est
pas compliqué. Shabbat est sorti à quelle heure cette semaine? Il est sorti à 6h moins 10? D'accord? Donc vous comptez 5h30. Entre 5h20 et 5h30, c'est le moment optimal pour allumer les bougies de Hanouka ce soir.
Il y a longtemps que le soleil couche.
Vous êtes à la maison.
Entre l'entrée de Shabbat, 20
minutes que le soleil couche.
Non, pas du tout, non. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal aujourd'hui à savoir, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à savoir quand le soleil a fini de se coucher, puisqu'aujourd'hui, de toutes les façons, il y a déjà de la lumière dehors. C'est expliqué en Shulchan Aruch, déjà à cette époque, ils avaient ce problème. C'est que quand il y a la lumière dehors, on a beaucoup de mal à savoir. On croit que le soleil est déjà couché, mais en vérité, le soleil n'est pas entièrement couché. Et si c'était complètement obscur, c'est-à-dire s'il n'y avait pas du tout de lumière allumée, on aurait vu encore un petit peu de lumière. D'accord, c'est pour ça que c'est aujourd'hui on est obligé de se baser sur les calendriers parce que avec la lumière qu'on voit dehors, on voit rien du tout. Donc, on a dit aujourd'hui voilà, ce soir entre 5h20 et 5h30, c'est le moment optimal si tout le monde est à la maison. Si tout le monde n'est pas à la maison, on attend que tout le monde rentre à la maison. Puisque Pirsume Nissa, d'accord, Pirsume Nissa, ça veut dire répandre le miracle est plus important que de l'allumer à l'heure optimale. C'est plus important. Donc si tout le monde est là à 5h20, 5h30, on va dire pour être tranquille, on allume les bougies à ce moment-là. Par contre, on doit mettre un minimum d'huile pour que... Alors, le Shulchan Aruch nous donne la définition, il dit faut que ça tienne « Hachetichle regel minashuk », c'est-à-dire jusqu'à que il n'y ait plus de... Littéralement, c'est-à-dire jusqu'à qu'il n'y ait plus de pieds dans le marché. Alors, encore une fois, aujourd'hui, c'est une définition... Je vais expliquer. C'est une définition qui est difficile à expliquer aujourd'hui. À l'époque, une fois que la nuit était tombée, une demi-heure plus tard, il n'y avait plus personne au marché. D'accord? Parce que on s'est essayé de se débrouiller avec des bougies, avec des moyens de... D'accord? Bon, maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils ne font pas leur planning par rapport à la lumière du jour. Et ça change pas qu'on a quand même gardé, les mêmes restrictions que les Chachamim ont données. Ça veut dire que, on demande à ce que les bougies de Hanouka soient allumées au moins à Chitichle Regal Minashuk. Ça veut dire, il faut compter une demi-heure après la tombée de la nuit. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que même si j'allume les bougies à 10h du soir, il faut les laisser allumer au minimum une demi-heure. D'accord? Si je les allume à 5h30, il faut que mes bougies durent au moins une heure, puisqu'il faut qu'elles arrivent jusqu'à 6h, plus une demi-heure. Ou bien 6h moins 10, plus une demi-heure. D'accord? Donc ça, il ne faut pas oublier. C'est une demi-heure après la tombée de la nuit. Ouais. D'accord, donc c'est bon, en général, ah,
donc,
pas au prochain.
Donc c'est pas les bougies, on peut pas utiliser vos bougies pour ça.
Les bougies que les bougies de qui a dans les paquets. Ils sont pas faits pour être allumés à l'heure optimale.
D'accord. Ok. Ils sont faits
pour, être allumés à la tombée de la nuit et là elles tiennent une demi-heure.
Ben, c'est bon, ça va.
Demi-heure, elles tiennent même, elles tiennent 35-40
minutes.
Ouais. À peu près. Ça dépend du vent, ça dépend de beaucoup de choses. 30 minutes, ça tient. C'est clair.
Au vent quand même, il faut pas brûler la maison.
Non, mais ça, oui, c'est non, mais ça pas cachère pour Shabbat. Dans tous les cas.
Pour Shabbat, c'est pas bon. Non, je le dis, toujours.
Ni pour l'heure optimum.
Pour l'heure optimum, c'est pas bon. D'accord, parce que sinon, ça tient pas.
Il faut une heure pour l'heure optimum. Une demi-heure.
50 minutes en général. 50 minutes, une heure. Voilà, une heure, vous êtes tranquille, voilà, vous êtes couvert. Alors, donc, pourquoi les Khamim ont instauré ça, ont instauré cette histoire de dépassant du marché? D'accord, c'est parce que lorsque les gens voyaient que le soleil se couchait et que donc la nuit était en train de tomber, les gens rentraient chez eux. Et lorsque les gens rentraient chez eux, des fois ça leur prenait une demi-heure le temps d'entrer chez eux, ils étaient encore éclairés par la lumière des maisons qu'il y avait autour. Donc ils s'éclairaient un petit peu et ils rentraient. Et donc c'était le moment optimal pour allumer les bougies de Hanouka, puisque les passants y voient, et voient, il y a plus de lumière que d'habitude. C'était le moment optimal. Donc de là on comprend que le plus important dans les bougies de Hanouka, c'est le facteur du Pirsoumenissa de répandre le miracle. D'accord, ça c'est le plus important dans les bougies de Hanouka, c'est pour ça. Que si on rentre chez soi tard, on rentre du boulot pour X ou Y raison, on rentre par exemple à minuit. Minuit en général, c'est une heure à laquelle la plupart des gens dorment déjà. Quand la plupart des gens de dehors dorment déjà. Donc il n'y a plus le facteur de Pirsoumenissa. Alors est-ce que j'ai le droit d'allumer? La réponse est oui, j'ai le droit d'allumer, mais si je peux réveiller au moins une personne de ma maison, ça serait bien. Parce que pour répandre le miracle, il faut au moins qu'il y ait une personne à part moi qui profite du fait qu'on allume. C'est-à-dire même si à la maison on a déjà allumé, pour X ou Y raison, peu importe, d'accord? Et que moi je viens, je vais allumer. Si je peux allumer avec une autre personne, c'est mieux. Parce que Pirsoumenissa, ça veut dire répandre le miracle. Ça veut dire qu'il faut qu'une autre personne, à part moi, profite des bougies de la lumière de Hanouka.
D'après ce que tu viens de dire.
Passer cette demi-heure, oui.
Si j'allume mes bougies, d'accord. Et je sors, je m'en vais tout de suite. J'en ai pas profité.
C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut rester une demi-heure.
Moi-même, je dois au moins rester une demi-heure à côté des bougies.
Bedi Avad, si moi je peux pas rester une demi-heure. C'est vraiment Bediavan, hein. Je peux nommer quelqu'un qui va être à côté des bougies, qui va garder les bougies à ma place. Mais je vous dis, c'est vraiment Bediavan. Pourquoi je vous dis que c'est quelqu'un qui veut? Pourquoi c'est Bediavan? Parce que normalement, encore une fois, le facteur de Pirsoumenissa, c'est répandre le miracle. C'est-à-dire, il faut que je sois là pour profiter du miracle, pour me rappeler du miracle.
Moi-même,
et comme je dis, et si possible, une autre personne ou plusieurs autres personnes. Azak.
Oh là 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 là.
D'accord? Alors. Passer la demi-heure, j'ai le droit d'éteindre. Il y a des gens qui pensent, souvent des gens, chaque année, toujours des gens qui posent la question, disent, est-ce que j'ai le droit d'éteindre les bougies de Hanouka? Les gens, ils croient que c'est interdit, je sais pas, on n'a pas le droit d'éteindre. On a le droit d'éteindre les bougies de Hanouka. Passer la demi-heure, oui.
Le droit d'éteindre si on en a besoin.
Passer la demi-heure, j'ai le droit d'éteindre les bougies de Hanouka. Le grand classique, c'est quoi? C'est, on a allumé les bougies de Hanouka, on a mangé les beignets, on est resté une demi-heure, une heure, on veut partir, on a peur que ça prend feu. On connaît des histoires des maisons qui ont pris feu à cause des bougies de Hanouka. Alors, est-ce que j'ai le droit de les éteindre? La réponse est oui, bien sûr. Non, mais même si c'est pas pour ça, même si je veux les éteindre.
Sans aucune raison, moi.
J'ai le droit.
Pour l'économie.
Je fais ce que je.
Pour l'économie.
On n'a pas dit qu'il faut les éteindre. On n'a pas dit qu'il faut les éteindre.
Il faut une raison.
Je veux les éteindre.
Comme ça.
Comme ça. Je vais dormir et j'ai peur de les laisser allumer.
Alors, ça fait de la lumière.
D'accord.
Ça fait de la lumière. Je veux dormir.
Voilà.
Imagine qu'il veut
éteindre. Il peut, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tant que dès que la demi-heure est passée, on a le droit d'éteindre les bougies.
On a le droit, mais personne ne le fait.
Plus que ça.
Comment c'est arrivé?
J'avais fait.
Nous dit le Shulchan Aruch que plus que ça, vous savez, qu'est-ce qu'on dit dans la Nerot à la Lou? Dans la Nerot à la Lou, comment dire ce soir, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les bougies qu'on allumait sont Kodesh, et on n'a pas le droit de s'en servir. Ouais. D'accord? Et donc justement, on est en train de rappeler. Et là, l'Irotan Bilva. On a le droit seulement de les voir. L'interdiction qu'on a le droit uniquement de voir les bougies de Hanouka, qu'on n'a pas le droit de se servir de leur lumière, et seulement pendant la première demi-heure.
Ah oui.
Une fois que la première demi-heure est passée, j'ai le droit de lire mon journal à côté, pas de problème. Eh oui, c'est-à-dire que la mitzvah principale, c'est la première demi-heure. C'est pour ça que les femmes n'ont pas le droit de travailler, et même nous, on s'efforce de rester assis une demi-heure à côté, raconter une histoire aux enfants, manger des beignets, faites ce que vous voulez.
Vendredi à minuit, elles sont encore allumées.
Oui.
D'accord. Elles sont encore allumées parce que j'ai mis des nerfs super light.
Bon, d'accord, ouais.
Je peux prendre un livre et aller lire.
Pas de problème. Pas de problème. Une fois que la première demi-heure est passée.
Le samedi, ça.
Bah oui.
Ah oui.
S'en servir.
Est-ce qu'il y a un risque que vous. Alors.
Mais non, elle est dans un endroit.
Il veut, non, mais il va pas se mettre à côté. Après, comme il dit mon père, Shabbat, On n'a pas le droit de lire juste à côté d'une, d'une bougie, de peur de la pencher. D'accord. Mais bon, je veux dire, profiter de la lumière, il n'y a pas de problème. Ah,
parce que là,
ça fait la lumière, hein, une bougie, en tout cas.
Il y a un paquet de lumière, là. Elles seront nombreuses.
Ah non, ça fait la lumière, bougie, en tout cas.
Il
y en aura, ouais. Non, là, Shabbat, ça sera, on sera combien? On allumera 4 bougies. Non, 3 bougies.
3 bougies. Plus le shamash, ça fait 4 bougies. C'est pas mal.
C'est pas énorme, mais c'est pas mal. C'est que ça fait de la bougie.
À la maison, elle va tuer gras avec les.
Ah non, ça sent pas mauvais, les bougies.
Ouais, pour moi, c'est nouveau de pouvoir s'éclairer.
Ah oui,
pour
mais...
moi, on n'a pas le droit de s'éclairer nul.
Je sais, je sais.
Ni
mais attends, mais après la... attention, après que la demi-heure est passée.
Mais on n'a pas,
pas, d'accord.
On n'a pas peur de Maréta Haïn, premièrement.
Alors.
Il y a Maréta Haïn.
Ça fait 14 heures.
Et deuxièmement, il y a le fait de s'habituer aussi.
Si
on commence à lire à la lumière du Shoka, après, peut-être qu'on va le perdre dans la demi-heure après.
Ça n'a pas été interdit par la Kramine, j'ai compris. Il faut comprendre, il faut se rappeler d'une réalité qu'on avait à l'époque. Une réalité qu'on avait à l'époque, c'est quoi, hein? Une réalité qu'on avait à l'époque, c'est que les bougies, c'était la lumière qu'on utilisait à la maison. Donc c'était une vraie question qui se posait. C'est pas une simple question de théorique comme aujourd'hui, que bon, on a la lumière. C'était une vraie question qui se posait. Et c'est pour ça que les Rahamim m'ont dit, d'ailleurs, vous savez, c'est la raison principale pour laquelle on met le shamash. Pourquoi on met le shamash?
Pourquoi on met le shamash? On ne peut pas profiter des autres bougies.
D'accord. Les gens, ils pensent qu'on met le shamash, il nous permet d'allumer les autres bougies. Alors, dans ce cas-là, une fois que j'ai allumé les autres, je l'éteins. Pourquoi on met le shamash? Comme ça, au cas où on profite de la lumière pendant la première demi-heure, on dira que moi, j'ai profité de la lumière du shamash et j'avais pas besoin de la lumière supplémentaire. Il y avait déjà une lumière. D'accord? Un peu un...
Mais on peut mettre d'autres lumières aussi. Ouais. Pour
donc on peut l'enlever.
Bien sûr. Voilà. Une fois que je n'ai pas besoin de cette lumière, et que bon, elle est en plus, je dis bon, c'est pas mes affaires, moi je ne l'ai pas allumé pour ça, je pouvais me débrouiller sans ça. C'est vrai que j'allume le shamash, je dis moi, je pouvais me débrouiller sans ça.
Bon, si j'ai vraiment d'accord. besoin que du shamash, je prends le shamash et je veux même clair avec pour lire.
Si tu veux, mais le problème c'est que si...
Je
veux pas te poser excuse.
Il peut...
Non, tu veux.
D'accord.
On peut allumer d'autres bougies.
Oui, pas de problème. Le shamash, on peut faire ce qu'on veut. Le shamash, c'est une bougie d'appoint, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, allumer sa cigarette. Pour ceux qui fument,
oui,
d'accord. Avec la bougie de Hanouka, c'est assourd. De la même manière, plus que ça, même allumer une bougie de Hanouka avec une autre, c'est assourd. Ouais. Il y en a qui permettent, sachez qu'il y en a qui permettent. Si un jour vous voyez, sachez qu'il y en a qui permettent. On le fait pas.
Sur les bougies de Shabbat, c'est pour ça qu'on... sur les bougies de.
Cherche les problèmes. Oui.
Allumer avec une
autre. Oui, il faut pas le faire, hein, c'est des blagues. Hein. C'est Bifus, il est comique, il aime bien blaguer.
Tu allumes avec une autre. Imagine que tu utilises ton shamash pour allumer. C'est un shamash, tu peux pas réutiliser le feu de l'une que tu viens d'allumer pour réallumer le shamash.
Non. Non plus.
Ben, c'est ça le.
Ah oui, non plus.
C'est ça le.
Le shamash doit t'allumer toujours par une source externe, à part les bougies de Hanouka.
On parle d'une demi-heure. Mais est-ce qu'on parle. Avant, on partageait pas les heures comme maintenant.
Oui.
Avant, c'était on diminue.
Une demi-heure solaire.
Voilà. Est-ce que c'est. D'après la Torah, ça doit être une
demi-heure. Non, c'est pas une demi-heure, c'est une demi-heure à la montre. C'est à peu près, mais c'est. Je veux dire, c'est une estimation que les Rachamim m'ont donnée. Le Shulchan Aruch dit Kemo Khatisha. Comme une demi-heure. C'est une estimation que les Rachamim m'ont donnée parce qu'à la base, on se basait sur un autre paramètre. C'était le temps que les gens rentrent du marché. Ça prenait une demi-heure. Donc, ça a été estimé à une demi-heure et du coup, on a gardé une demi-heure.
Ouais, mais justement. C'est pas le temps.
Non. Ah non, parce qu'il y a plus d'heures manites après. Non, non.
Le problème, c'est que les gens, ils prennent en bagnette, ils vont directement dans le parking de chez eux.
Les gens,
ils marchent plus. Les gens, ils passent plus dans la rue avec les paniers.
Aujourd'hui, le facteur principal de Pirsoumenissa, c'est déjà pour soi-même et c'est loin de sa maison.
Ouais.
C'est déjà ça. Comme le rabbi précédent, il disait le soir de Hanouka, il faut s'arrêter à côté des bougies et écouter ce que les bougies ont à nous raconter. Elles ont un message à nous raconter. Donc c'est justement, c'est essayer de réfléchir au message de Hanouka. Les bougies, quand on réfléchit,
c'est
un message extraordinaire. Alors, quelles huiles et mèches sont cachères pour les bougies de Hanouka? D'accord? Toutes les huiles et les mèches sont cachères pour les bougies de Hanouka. Contrairement au Shabbat, hein, le fameux Madliki, dans lequel on apprend que pas toutes les mèches sont cachères. Pour la bougie de Hanouka, tout est cachère. D'accord? Et même si c'est une mèche ou une huile qui n'attrape pas bien le feu, parce qu'il y a des huiles qui n'attrapent pas bien le feu, c'est un mauvais combustible. Et il y a des mèches aussi qui n'attrapent pas bien le feu. Donc là, le problème peut être soit dans le mèche, soit dans la mèche, soit dans l'huile, soit dans les deux. C'est pas grave. Pour allumer les bougies de Hanouka, tout est cachère. Néanmoins, nous dit le Rama, ça a priori c'est accepté par tout le monde, l'huile qui est donc la meilleure huile possible pour allumer les bougies de Hanouka, on peut allumer, donc même théoriquement, on peut allumer avec de la cire, avec ce qu'on veut, avec ce qui se vend. La meilleure huile pour allumer les bougies de Hanouka, c'est quoi? c'est Shemen Zayi, de l'huile d'olive.
Comme pour Shabbat.
D'accord, comme pour Shabbat. Et si possible, de l'huile d'olive, première pression.
Oui, d'accord, ça, on revient à l'origine.
Voilà, mais ça, c'est pas obligé. L'huile d'olive, première pression, puisque c'est l'huile qui est la plus pure, qui est la plus propre. D'ailleurs, on le voit. D'accord, même ce qu'on achète dans les supermarchés. Vous voyez, l'huile d'olive, quand c'est écrit première pression, en général, c'est une huile qui est beaucoup plus propre. C'est comment ça marche?
Première pression à froid.
Comment ça marche dans les olives? On fait une première pression qui nous donne la meilleure huile. D'accord? Après, quand vous voyez l'olive, je sais pas si vous avez déjà vu, vous voyez l'olive, vous croyez qu'il n'y a plus rien à tirer.
Non, mais
d'accord? Et après, on fait à chaud, et on trouve encore de l'huile. Mais bon.
Il y a des
c'est pas la même chose.
Des pour ça.
Oui, on a tout ce qu'il faut pour
moi, j'aime bien la deuxième pression parce qu'elle est fruitée.
Oui, mais en général, la deuxième pression, c'est à chaud.
Oui.
C'est-à-dire qu'on arrive à trouver quelque chose que, on arrive à trouver.
Pourquoi à chaud? Parce qu'ils font une mini cuisson pour que les noyaux y sortent.
Je sais pas pourquoi et comment.
L'olive, enlever un noyau.
Ah non, mais je sais pas, moi j'ai déjà vu. Hein. Vous prenez l'olive.
Bien sûr, il y a même des débris d'olive dedans.
Vous prenez l'olive après la première pression, vous avez l'impression qu'elle est finie, il n'y a plus rien à tirer. C'est extraordinaire.
Mais d'ailleurs,
l'huile d'olive d'Italie qui a première pression, la verte, là, elle est très fruitée.
Oui. Est-ce que tu as déjà trouvé une bouteille où il y a écrit deuxième pression? Voilà.
Non, mais il n'y a rien marqué. Il y a marqué première pression, moi, je ne prends pas les autres.
Des fois, tu trouves des trucs artisanaux qui ont été faits vraiment à la presse, tu vois. Et ben là, elle est pleine de débris, c'est-à-dire au fond de la bouteille, tu as une petite purée comme ça.
Il paraît qu'il faut une quantité énorme d'olives pour faire une bouteille. C'est vraiment énorme.
5 ou 6 kilos, je crois.
Ah oui, je crois que c'est un ratio vraiment énorme. Hein.
Plus que 6 kilos.
Ah, c'est vraiment énorme, hein,
c'est beaucoup.
Hein.
Pas beaucoup.
Demandez à Mendy.
Parce qu'il y a déjà 30% de noyaux.
Mendy Disco. Ah, moi je sais que quand on faisait, on mettait beaucoup d'olives, d'accord, et on mettait le pressoir, ça sortait pas grand chose.
Parce que l'huile, dans tous les produits de la terre et des arbres, l'huile, de toute façon, c'est pas un truc à profusion.
Alors,
le tournesol, tu sais combien il faut de tournesol pour avoir l'huile?
Ah, c'est énorme, c'est énorme.
Les cacahuètes.
Les cacahuètes, ils en sortent beaucoup.
Il y a des statistiques que j'ai lues il y a pas longtemps qui disaient que, je crois, 90%. Je me rappelle bien le chiffre, c'était 90%. 90% des olives du monde sont utilisées pour faire de l'huile d'olive. Tellement on a besoin d'olives pour faire de l'huile d'olive. Ah, c'est extraordinaire. Alors, donc on a dit le mieux, c'est quoi? C'est de l'huile d'olive. Bon, aujourd'hui, au Khajem, ça se vend tout prêt, c'est déjà prêt. Pourquoi pas? Le mieux, c'est de l'huile d'olive. Si on n'a pas de l'huile d'olive, la deuxième option, encore une fois, tout est cachère, mais la deuxième option, c'est une bougie de cire. Pourquoi? Parce qu'on considère que la cire a une lumière qui ressemble beaucoup à la lumière, comme c'est dit Shukrano, qui ressemble beaucoup à la lumière de l'huile d'olive. Ça ressemble beaucoup. Ça produit à peu près le même rendu. D'accord? Donc c'est pour ça. Si on n'a pas d'huile d'olive, au moins, on prend de la cire. Alors c'est intéressant, lorsqu'il dit Shukrano. Encore une fois.
C'est une déviation par rapport à l'origine.
Oui.
Alors à ce moment-là, oui. Si on dévie, on va arriver à l'ampoule.
C'est pas dévié, non.
Il y en a qui...
Non, vous savez, c'est une question qui est posée.
Mais oui, parce qu'on était dans l'huile, on passe à la cire et
mais avec les... C'est un zécher. Ce qui compte, c'est qu'il y a de la lumière. C'est un zécher, c'est un souvenir. On n'est pas en train d'allumer un Batamikdash. Alors, ce qui est intéressant, si je vous pose la question maintenant, j'ai de l'huile de tournesol et j'ai une bougie de cire d'abeille. Laquelle passe en premier? Laquelle est meilleure? C'est la cire. C'est intéressant qu'on dise. Ça veut dire que le top, c'est quoi? C'est l'huile d'olive. Après l'huile d'olive, c'est tout de suite, on passe tout de suite à la cire.
Il y a une évolution qui a été admise.
Cette évolution était déjà à l'époque de la Mishnah. Parce que, encore une fois, la Takana, quand les Chachamim ont instauré, ils n'ont pas instauré qu'on allume comme Beit HaMikdash. Ils ont instauré ils ont voulu qu'on se rappelle du miracle. Donc après, le moyen, c'est comme les bougies de Shabbat.
C'est la flamme.
C'est la flamme.
Le miracle, c'est l'huile.
Oui, j'ai compris.
C'est l'huile.
Mais ce que les Chachamim ont demandé, c'est principalement la lumière. Parce que, encore une fois, le but, c'est de se rappeler, pire souvenir, ça, c'est de répandre le miracle, c'est tout. Parce que d'ailleurs, la méthode de fabrication, vous savez qu'il y avait une méthode de fabrication particulière pour l'huile du Beit HaMikdash. Devait être pure, etc. Notre huile n'est pas pure. Est-ce que notre huile est pure?
Pour avoir de
l'huile qu'on a aujourd'hui n'est pas pure, on ne sait pas où est-ce qu'elle a touché.
Oui, en fait, quand on dit pure, l'huile d'olive pure, c'est pas lié à la première pression.
Ah non.
C'est lié à la...
Quand je dis pure, c'est pure, ça veut dire qu'elle n'a été aucun contact avec chose d'impure. C'est évident que c'est pas le cas aujourd'hui.
Un mort, un zâme,
eh ben, on devait la suivre depuis, dans toutes les étapes de la fabrication.
Comme le vin cachère.
Et c'était ça le miracle d'ailleurs. Le miracle, c'est quoi le miracle? Qu'est-ce qu'il dit le pneu Yoshua?
Comme du vin cachère. On partait de l'olive.
Je vais rajouter encore un point qui explique le pneu Yoshua.
Même de l'olivier, même de la Shemitah.
Le pneu Yoshua, il pose la question suivante. Il dit, a priori, quand on lit la Gemara, on comprend que on avait de l'huile. On manquait pas d'huile. Qu'est-ce qu'on manquait? On manquait d'huile pure. Très bien. Je pose la question suivante, si a priori on voit que on a un principe qui dit que l'impureté est repoussée quand c'est pour un tribu, quand c'est pour une communauté. C'est-à-dire, il y a plusieurs cas dans la Gemara, dans lesquels, par exemple, il y avait une fois dans lequel tout le Ham Israël était impur pour le Korban Pessah. On se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors quoi, on fait pas le Korban Pessah? Et qu'est-ce qu'on dit? Touma outra betzibour. D'accord? Non. Que Touma outra betzibour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand toute la communauté est impure, on repousse l'impureté. Ça veut dire que le Pnei Yoshua pose la question, il dit théoriquement, on aurait pu allumer avec l'huile impure. Et on l'a pas fait. Pourquoi on l'a pas fait? Parce que justement, on a voulu montrer à Kadosh Baruch Hu que, étant donné que, le Rabbi explique, étant donné que la guerre contre les Grecs était une guerre qui était principalement spirituelle, pourquoi les Grecs n'ont pas simplement cassé les fioles d'huile?
Oui,
ils ont souillé.
Ils ont ouvert.
Ils les ont souillé. Pourquoi? C'est pour montrer, on n'est pas d'accord au fait que vous accordez de l'importance à la pureté et à l'impureté. Ça, c'est pas rationnel. Il ne faut pas accorder de l'importance à ça. Et les Bnei Israël, lorsqu'ils ont voulu rallumer les bougies du Beth Amikdash, ils se sont rendus compte d'un problème. Ils ont dit, attends, si on va allumer, alarmiquement, on peut le faire, on peut allumer parce qu'on n'a pas le choix. Mais si on va allumer avec de l'huile impure, ça voudrait dire que quelque part, ce serait une victoire des Grecs. Une victoire au moins temporaire. Ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, non, on veut pas de ça. Et on voit que quelque part, Akadosh Baruch Hu a collaboré avec eux. Théoriquement, je veux dire, ils ont fait plus loin que la loi. La loi leur dit, vous pouvez allumer avec ça. D'accord?
Quand il y a le décret, même la manière dont on attache le lacet.
Oui, d'accord, non, mais c'est pas la même chose là.
Ça?
Non, pas la même chose. Non, pas la même chose là. Parce que là, l'Halakha le permettait d'allumer.
Oui, mais dans le cas d'un moment où il y a un décret, il y a un roi qui décrète.
Très bien. Mais là, le problème, c'est.
On n'a pas le droit de changer
quoi. Mais là, l'Halakha le permet. Là, l'Halakha le permet d'allumer avec cette huile. Donc, on a voulu être plus royaliste que le roi.
Pourquoi on parle de Soumanes et non pas, on parle pas de Zafran?
Parce que les Chachamim, j'ai une bonne question. Les Chachamim, de manière générale, dans les miracles, dans tous les miracles, les Chachamim nous demandent uniquement de nous souvenir du miracle. Peu importe, on n'accorde pas d'importance au fait que le miracle doit être répandu. Ce qu'il y a de particulier dans le miracle de Chanukah Poran, on demande le Pirsou Manes, puisque finalement, c'est un miracle qui s'est passé où? C'est un miracle qui s'est passé dans l'enceinte du Beth Amikdash. Et, je veux dire, ça aurait très bien pu se passer que personne n'aurait été au courant. C'est un miracle, il n'y aurait que les Kohanim qui étaient au courant. Les Rami, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit non. Ils ont dit, il ne faut pas simplement que ceux qui ont allumé soient au courant. Je veux dire, théoriquement, il n'y a pas de raison pour que tout le Ham Israël soit au courant. Ils ont dit non, il faut que tout le monde soit au courant. Quand Akadosh Baruch Hu fait un miracle, il veut que tout le monde soit au courant. C'est, tout ce qui se passe au Beth Amikdash est public. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans le miracle de Hanouka, on a gardé cet aspect public. Il faut que tout le monde soit au courant et que ça ne se fasse pas simplement dans mon Beth Amikdash à moi.
Pour Rim, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était local, ça n'était pas dans le monde entier.
Ah non, pour Rim, c'est pas local. Pour 127 pays. C'était pratiquement le monde entier qui était concerné.
La Perse, c'était le
plus qu'on dise pas le Hallel. C'est parce que ça s'est passé dans
On dit le Hallel, en tout cas. Si on dit le Hallel, en tout cas. C'est à Pourim qu'on dit pas le Hallel. À Pourim, on dit pas le Hallel parce qu'on dit on n'a pas complètement été libérés puisque nous sommes toujours les serviteurs d'Achashverosh. On est toujours esclaves, on n'a pas. Mashiach n'est pas là. Mais Hanouka, bien sûr qu'on dit le Hallel, on a été sauvés.
Merci. On dit demain le Hallel.
Bien sûr. Tous les 8 jours de Hanouka, le Hallel complet, bien sûr.
C'est comme Sukkot.
Alors, ce qui est intéressant, je parlais des mèches.
Il n'y a pas un moussaf spécial.
Oui. Ah non, remercier Kadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire, bien sûr.
Il n'y a pas de corban.
Il n'y a pas de Seouda non plus. Il n'y a pas de Seouda comme on a expliqué hier. On a expliqué longuement hier.
Mais il y a une paracha spéciale.
Bien sûr.
Il n'y a pas de Moël.
Alors. Je continue maintenant avec l'histoire des mèches et des bougies. On a dit que toutes les mèches et les huiles sont cachères, même celles qui ne sont pas cachères pour Shabbat. Alors ce qui est intéressant du Shulchan Aruch, c'est que même si j'ai une mèche qui n'est pas cachée ou une huile qui n'est pas cachère pour Shabbat et que du coup je vais allumer mes bougies de Shabbat et qu'en parallèle je vais allumer les bougies de Hanouka vendredi soir, c'est pas grave si les bougies de Hanouka je les allume avec une mèche ou une huile qui n'est pas cachère. Ce qui compte c'est qu'il y a de la lumière. Voilà, c'est ce que je veux retenir. Ce qui compte c'est qu'il y ait de la lumière. Très bien.
C'est carrément pas cachère.
C'est
carrément une huile pas cachère. C'est-à-dire que ça pourrait être une graisse d'un animal.
Ah oui, bien sûr. Oui, du pétrole, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est qu'il y a de la lumière. D'accord ? Autre chose. Donc c'est là le Shulchan Aruch nous parle du fameux shamash. D'accord ? Du fameux shamash. Il nous dit que le shamash, pourquoi le shamash rituellement est toujours plus long ou plus élevé que les autres bougies ?
D'accord ?
Mais pourquoi on cherche à le distinguer ?
Quand on connaît plus longtemps,
moi j'ai choisi de distinguer, parce que encore une fois, alors je dis le Shulchan Aruch, et ça encore une fois c'était une réalité de l'époque, c'est qu'à l'époque des fois on a besoin d'une bougie, ouais. D'accord, et je vois que j'arrive pas, j'ouvre le placard, j'arrive pas à prendre ce que je veux, donc qu'est-ce que je fais? Je veux prendre la bougie, je me servais, je la mets devant, Sauf que, instinctivement, si toutes les bougies sont à la même hauteur, je peux prendre la mauvaise bougie. Donc c'est pour ça que les Khamim m'ont dit, il faut que cette bougie soit plus élevée pour s'assurer que même si tu dois la prendre, tu ne prends pas la mauvaise. D'accord ? Ça, c'est la raison.
Du coup, c'est carrément un godet à part.
Du coup, on a gardé ce minag. Selon minag Rabat, c'est carrément toutes les mèches sont en... Donc on allume on les allume avec de l'huile d'olive et le shamash est carrément en cire. C'est-à-dire, il est complètement différent. Il n'y a rien à voir. D'accord ? Bon, mais selon minag Sfarad, au moins on s'efforce que le shamash soit plus élevé. Soit plus élevé, d'accord ? Soit en retrait, d'accord ? Soit plus long. Enfin, il y a quelque chose qui le différencie des autres. Alors, maintenant, il y a une grande machloquette dans la Gemara, qui est, est-ce que adlaka ou sa mitzvah, d'accord ? Quelle est la mitzvah ? Oui. Est-ce que la mitzvah, c'est que la bougie soit allumée, ou la mitzvah, c'est d'allumer la bougie ? Je donne, alors, bien sûr, la semaine, la question ne se pose pas vraiment, puisque, à la limite, si la bougie s'éteint, je la rallume. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si j'allume mes bougies, le vendredi soir, je les allume, et 5 minutes après l'entrée de Shabbat, elle s'éteint. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas fait la mitzvah ?
La mitzvah a été faite, mais ça n'a pas duré.
Ah oui, mais attendez, on a dit qu'il faut que ça allume une demi-heure. Alors là, elle n'a pas été allumée une demi-heure. Alors c'est quoi la mitzvah ? D'abord, est-ce que ça veut dire que j'ai pas fait la mitzvah ? Et est-ce que ça veut dire que ma bracha a été en vain ?
Non, elle n'a pas été en vain. Vous avez allumé.
Au moment où tu allumes, tu peux pas savoir.
Donc, oui, d'accord.
Ça a duré quand même 5 minutes.
Déjà, tu peux pas.
Ça a duré 30 secondes. J'ai allumé une extrémité avant l'entrée de
la bracha. Que la bracha soit la bâtale, là, non ? Mais que la mitzvah soit complète, peut-être pas.
D'accord.
Si la bracha, c'est la mitzvah, c'était. On n'a pas dit à la mitzvah.
Il est encore temps.
Alors, la mitzvah, écoutez bien, la mitzvah, c'est l'éaglique. La mitzvah, c'est uniquement d'allumer. D'accord ? Seulement, on te demande d'allumer. Écoutez bien. On te demande d'allumer et de faire en sorte qu'il y ait assez pour que ça dure au moins une demi-heure. Maintenant, si entre-temps, pour X ou Y, ça s'est éteint et que je n'arrive pas à la rallumer ou que je ne l'ai pas vu, que ça s'est éteint, etc.
Tout le monde a pris.
D'accord ?
Tout le monde a pris.
Merci. Si maintenant je l'ai éteint, d'accord ? Je l'ai allumé, mais après, pour X ou Y, ça s'est éteint et je n'ai pas pu la rallumer. C'est pas grave, j'ai fait quand même la mitzvah, puisque adlaka osa mitzvah, la mitzvah, c'est d'allumer les bougies de Hanouka. Sachez que c'était une grande marloquette dans la Gemara, dans les poskim, mais la conclusion c'est que adlaka osa mitzvah, c'est le fait d'allumer qui fait la mitzvah. D'accord ? Le fait d'allumer, c'est ce qui fait la mitzvah.
Donc c'est là pourquoi on dit pas.
Mais par contre, comme j'ai expliqué, pendant la première demi-heure, on n'a pas le droit de l'éteindre intentionnellement. On n'a pas le droit. D'accord ?
Si c'est dans la demi-heure, on peut rallumer.
Enfin, on peut rallumer, il faut rallumer. Mais si on n'a pas rallumé, c'est pas grave. On a quand même fait la mitzvah, mais il faut rallumer. Après la demi-heure, on rallume plus.
Le problème, tu parles par Shabbat, c'est sûr.
Ah oui, par exemple.
Ça dépend.
Ça dépend quoi ?
Ça dépend comment tu allumais la Hanoukia. Est-ce que ta femme allumait les Nérotes à les Nérotes
Ah non, ça dépend pas de la femme. Non, ça dépend de l'heure à laquelle moi
je fais rentrer Shabbat ou pas ?
Moi je peux rentrer Shabbat à la synagogue.
Toi, imagine, tu allumais les Nérotes,
on les fait en bout d'un quart d'heure. Avec la communauté ?
Je fais.
Mais nous, on fait rentrer Shabbat avec la communauté.
Oui, c'est ce que je lui dis. Oui, bien sûr.
Oui. D'accord.
D'ailleurs, c'est un grand classique, la femme allumait les bougies de Shabbat, et toi tu sors avec le talit, tu viens à la synagogue. D'accord ? Alors,
18 minutes, au maximum.
Je vous parlais de l'été ? Non, c'est toujours, bien sûr, on fait rentrer Shabbat avec la communauté. Mais attention, faire rentrer Shabbat avec la communauté.
Vous priez juste à la limite de Shabbat ?
Oui.
Non,
attends,
donc la communauté fait rentrer. Oui, mais attendez. Notre
communauté,
en été, fait rentrer Shabbat.
Ah, ici, on a deux offices.
On se fixe, quoi qu'il en soit, si à l'ordre de la communauté.
Ah oui, non, bien sûr. Ici, on a deux offices.
Bonne journée, bonne journée. Vous savez comment c'est le problème. D'accord.
Quelle heure il est ? Désolé, on va s'arrêter. Une fois qu'on fait la bracha, le shamash doit déjà être prêt. Et la seule chose qui manque, c'est prendre ma main et allumer. D'accord ? Le shamash doit être allumé
il
avant.
Pas dans les fizurim, ça.
Parce qu'il y a des gens qui pensent, c'est la raison.
Ils
disent, bon, d'abord je fais la bracha, après, bon, allez, on allume le shamash, on allume le reste. C'est un hefsek. D'accord ? Bon, on l'a fait, mais c'est un hefsek, il faut faire attention à ça. Chag Sameach, Chanukah Sameach.
Les gens, ils ne savent pas trop. Ils font la bracha, ils
allument d'abord le... C'est écrit dans le guide de Chanukah, vous l'avez vu, c'est écrit.
Que d'abord on allume le shamash, ensuite on allume la bracha.
C'est écrit.
J'ai pas regardé.
Après que ça marche, il y a peut-être... Ça m'irait beaucoup encore. Si, parce que tu viens de...